Merci de cette invitation et bonjour à toutes et à tous. Alors plus tous que toutes parce que effectivement, ça reste, même s'il y a une féminisation, je vois que ça reste des professions plutôt, et c'est assez traditionnel, plutôt masculine. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est une autre casquette que j'ai et je n'en parlerai pas plus que ça. Alors vous n'hésitez pas effectivement de temps en temps à m'arrêter parce que je baigne dans cet univers, comme vous l'avez rappelé, depuis quelques années. Et on utilise un vocabulaire qui nous est extrêmement familier et qui n'est pas nécessairement pour vous. Donc, faut pas hésiter à m'interrompre parce que sinon, mon propos vous paraîtra assez confus ou en tout cas un peu ésotérique. D'abord, on m'a demandé effectivement de parler de co-construction. Alors, avant de commencer et de parler du Grenelle de l'environnement, parce que c'est extrêmement, enfin moi je trouve ça passionnant de savoir comment on a imaginé le Grenelle de l'environnement, je voudrais juste faire une petite précision sémantique, enfin quelques petites précisions sémantiques. On parle beaucoup dans le développement durable de participation du public. C'est un mot qu'on utilise assez régulièrement. Dans, juste vous dire que juridiquement, la participation du public, c'est plutôt en réalité une procédure de consultation du public. Il n'y a pas vraiment de portée décisionnelle, c'est-à-dire qu'on va consulter, on va informer le public, on va lui demander de donner son avis sur un projet, mais c'est pas lui qui va décider. C'est la différence entre participation du public et démocratie directe ou semi-directe. À partir du moment où le public participe directement à une décision qui peut l'arbitrer définitivement, ça c'est de la démocratie directe. Et on ne fait pas ça en France, on le fait rarement, il y a très très peu d'expérience, parce qu'on est un pays très attaché à ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est-à-dire que, in fine, ce sont toujours les élus, qu'ils soient députés, sénateurs ou élus à la région, qui décideront si on élabore, si on met en œuvre un projet ou pas. Donc ça, c'était un premier point qui est quand même extrêmement, extrêmement important, parce que quand on parle de participation du public, si un jour vous êtes confronté à cette question, sachez que la participation, c'est plus une procédure de consultation et pas vraiment une procédure de décision au sens propre. Alors, au moment où on a fait le Grenelle de l'environnement, déjà se posait quand même beaucoup la question de comment on fait participer le public à une décision. C'est quand même un très vieux débat. On a des procédures que vous devez connaître, j'imagine, parce que c'est des procédures auxquelles vous serez confrontés dans l'ensemble de votre carrière professionnelle. On a une procédure qui est très connue, qui existe de longue date, qui s'appelle l'enquête publique. L'enquête publique, elle a été créée en 1983 par une loi dite Bouchardot pour vraiment les grands projets, c'est-à-dire toutes les grandes décisions qui sont énumérées par la loi. C'est-à-dire que la loi dit, ben voilà, pour tel type de projet, il faut une enquête publique. Donc on fait un projet, on fait un gros dossier. Le dossier, en général, est accessible en mairie ou en préfecture, ça dépend de la nature des projets. Et puis, les personnes s'expriment ou apportent leur contribution au projet avant qu'il soit décidé. On avait une deuxième procédure qui a été créée en 85, qui concerne, elle, tous les documents d'urbanisme et tous les grands projets d'aménagement, qui s'appelle la concertation, qui est à peu près très très proche, en fait, de l'enquête publique. Et puis, une troisième procédure plus récente de 1995 qui s'appelle le débat public. Et ça, c'est un peu plus nouveau, c'est un peu plus moderne dans sa conception, puisque c'est vraiment, ça a été fait pour pallier justement l'absence de concertation préalable sur les grands projets. Et donc, c'est soit le législateur, soit la fameuse CNDP, la Commission nationale du débat public, qui, en cas de grand projet, dit « je vais essayer d'organiser un débat » avec tous ceux qui veulent venir aux réunions, mais en amont du projet, pas au moment où il a été ficelé, élaboré, où on vous dit ma ligne de TGV ou mon pont va passer à tel endroit, mais vraiment en amont du projet, quand on dit tiens, ce serait pas mal d'essayer de relier telle ou telle ville, je pense c'est assez classique hein, sur les transports publics, et en amont du projet, donnez-nous votre avis, est-ce que vous pensez qu'un TGV c'est pertinent, est-ce que vous pensez qu'il faut traverser telle zone. Et donc c'est vraiment, c'est une procédure qui est beaucoup plus intéressante parce que le projet n'est pas ficelé, c'est pas oui, non, ça m'intéresse. Vraiment, le public peut donner son avis sur les grandes orientations. Mais en réalité, c'était assez rare qu'on ait cette forme de participation au débat, alors même qu'il y a une convention dont je voudrais vous parler, parce que je ne sais pas si vous connaissez la convention d'Aarhus. Non, personne ne connaît la convention d'Aarhus, quelle tristesse. Alors Aarhus, ça s'écrit 2-A-R-H-U-S, voilà. Et c'est une convention qui a été une convention internationale qui a été adoptée en 98. Alors elle a été signée par 39 pays, hein, ce qui vous laisse entendre que quand même elle n'est pas évidente à mettre en place et qui justement porte sur la participation du public. Et cette convention, alors on l'a approuvée en France, on l'a intégrée en fait dans la Constitution via ce qu'on a appelé la charte de l'environnement. Mais elle a deux points qui sont extrêmement importants et sur lesquels je voudrais revenir. Elle a deux points. Le point 4 qui dit que chaque partie, donc en fait chaque pays, prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure. C'est-à-dire au moment où toutes les options et toutes les solutions sont ouvertes. Ça, c'est le point 4. Et le point 9 qui dit que chaque partie, donc chaque pays, communique au public le texte de la décision assorti des motifs et considérations sur lesquels la dite décision est fondée. Ce qui veut dire que quand vous prenez une décision, si le public vous a dit non, on ne souhaite pas tel projet, que finalement vous adoptez quand même le projet, il faut justifier votre décision. Et ces deux points-là, en France, c'était quand même pas la tradition. C'est-à-dire qu'en général, on consulte une fois que le projet est ficelé, et puis surtout, bah, quand on maintient quand même le projet, malgré l'avis du public, on n'explique pas trop pourquoi. Et donc cette convention d'Aarhus, elle a été extrêmement fondatrice, parce que toutes les associations nous disaient, écoutez, vous la France, vous avez ratifié cette convention, vous l'avez signée, vous l'avez intégrée dans la Constitution, et puis finalement, vous ne faites rien, vous n'en tenez jamais compte. Et c'est vrai que régulièrement, quand on a des projets dans le domaine de la construction, des transports, dans le domaine de l'environnement, on a tout le temps des contestations. Des projets d'éoliennes, et je suis aussi vice-présidente de la région Île-de-France, ça s'appelle le cumul des mandats, mais enfin ça a un intérêt, c'est que ça permet d'avoir du concret dans nos décisions. En Île-de-France, on a réussi à créer le premier parc éolien l'année dernière. Voilà. On est dernière région sur le parc éolien. Et pourtant, des champs, on en a, du vent, on en a, donc on pourrait tout à fait faire des éoliennes. Mais à chaque fois qu'on a un projet de parc éolienne, on a toujours une contestation locale. On n'arrive jamais à sortir un projet. Un autre sujet qui est vraiment aussi au cœur de la vie quotidienne, les déchets, pardon, mais les déchets c'est extrêmement intéressant, et c'est un secteur d'avenir parce qu'il y en aura toujours. On nous dit qu'il faut aujourd'hui essayer de valoriser les biodéchets, c'est les déchets issus de l'alimentation, parce que ça peut servir, hein. Ça peut être réutilisé en compost dans les champs, ça peut servir aussi à faire de la méthanisation, ça a plein d'utilisations. Sauf que les usines dans lesquelles on collecte ces biodéchets, il y a eu quelques expériences malheureuses, ça peut sentir très mauvais, il y a eu des épisodes de mouches, donc ce qui fait qu'à chaque fois que vous avez un projet d'usine pour de biodéchets, eh bien vous avez une contestation locale, résultat des courses, en Ile-de-France, on n'arrive pas à construire de nouvelles usines, alors même qu'on a un gisement énorme et un besoin de valorisation énorme. Et puis alors, dans les transports, je ne vous en parle même pas. Tout le monde dit qu'il faut développer le fret ferroviaire, donc les lignes de transport de train pour les marchandises. Sauf que aller essayer de dessiner le tracé d'une ligne ferroviaire en Ile-de-France, je vous souhaite bon courage. Il y a des projets comme ça, qui ont 20 ans, qui ne sortent pas de terre, parce que dès qu'on dit que ça va passer à tel endroit, soit l'agriculteur, évidemment, il ne veut pas qu'on prenne son champ, ça passe trop près d'un village, ça fait trop de bruit, et donc on n'arrive pas à sortir ces projets. D'où l'intérêt. Vraiment, c'est le cœur du sujet quand vous faites des grands projets, des grands chantiers. Comment on fait accepter la décision? C'est vraiment le cœur du sujet, parce que des projets géniaux, des projets rentables, des projets utiles pour l'intérêt général, vous en avez plein, mais qui sortent réellement de terre, vous en avez très très peu. Donc, voilà en quelques mots le débat qui s'était posé pour nous en 2007. Voilà la situation de l'environnement, des tas de projets qui sortaient pas de terre, peu de participation du public, pas de vrai modèle de co-construction et de décision. Mais en réalité, c'est pas du tout de cette préoccupation qu'est né le Grenelle de l'environnement. Donc, je commençais par là parce que je voulais juste vous faire toucher du doigt cette difficulté, mais on m'a demandé de parler du Grenelle de l'environnement, et si je veux être totalement honnête avec vous, le Grenelle de l'environnement, c'est un incident de campagne. c'est un hasard de la campagne. C'est quelque chose de totalement improbable qui, en réalité, n'aurait presque jamais dû se passer. Qu'est-ce qui se passe on est en 2006-2007, en pleine campagne électorale. Cette campagne de 2007, elle était géniale parce qu'à l'époque, on parlait d'environnement. 2012, on ne parle pas, et cette année, je ne vous en parle même pas. Donc 2007, vraiment, on a toutes les associations, enfin les principales associations qui se sont coalisées, qui ont créé un pacte. Donc dedans, vous allez trouver FNH, la Fondation Nicolas Hulot, WWF, Greenpeace, la Ligue de protection pour les oiseaux, Yann Arthus Bertrand, enfin les grandes associations françaises qui s'unissent, qui font un pacte et qui disent aux candidats, bah, non seulement vous devez vous engager autour des propositions qu'on va vous proposer, mais en plus, on va noter vos programmes. Tous les candidats signent le pacte, tous. Ils sont tous passés, ils ont signé le pacte, on s'engage. Mais par contre, sur les notes, nous, on était désespérés parce qu'on était persuadés d'avoir un formidable programme et on était toujours extrêmement mal notés par les associations. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait aucun dialogue avec les associations. Les associations considéraient toujours qu'à droite, on ne savait pas faire de l'environnement, ce qui est contestable, mais passons, et que nécessairement, on ne dialoguait pas avec elles. Donc on était dans cette impasse totale, avec moi, un candidat, vous connaissez le nom, vous connaissez son caractère, et donc un candidat qui, pour le coup, me dit bah, « je ne veux plus en entendre parler », et de l'autre côté, des associations qui me disent « on ne veut pas le voir ». Donc, j'essaye d'organiser une rencontre entre eux. Nicolas Sarkozy ne veut pas aller à la Fondation Nicolas Hulot. Il est hors de question que j'aille m'abaisser devant Nicolas Hulot. Et puis, de l'autre côté, Nicolas Hulot me dit « je veux pas venir au QG de campagne, hors de question que je vienne au QG de campagne ». Donc, on trouve un terrain neutre au Muséum National d'Histoire Naturelle qui nous accueille. Et nous voilà dans une salle, plutôt en petit comité, puisque Nicolas Sarkozy est accompagné de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et puis autour de la table, on a les leaders de l'époque qui avaient quand même un peu plus de poids en réalité qu'aujourd'hui. Donc on a Nicolas Hulot, on a Serge Aurue pour le WWF, on a Alain Bougrain-Dubourg, on a Yann Arthus-Bertrand. Tout le monde est autour de la table. Et la réunion commence, mon Dieu, mais alors dans la virilité la plus absolue. Ça a été un concours de virilité entre ceux qui se traitaient de ringards, de conservateurs, et de l'autre côté, c'était des idéologues. Et donc, on arrive dans une situation quasiment d'impasse, où chacun essayait de montrer à l'autre qu'il avait absolument raison. Et puis, tout d'un coup, il y a une petite voix, un responsable d'association, qui dit « on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à dialoguer, il faudrait faire un Grenelle ». Un Grenelle en renvoyant à cette fameuse négociation sociale où, dans la même situation de blocage du dialogue social, ils se sont mis autour de la table et ils ont effectivement fait un Grenelle, et ils ont pris des décisions. Et puis, plus pur des hasards, le candidat, enfin Nicolas Sarkozy, rebondit là-dessus et dit « Banco, chiche, chiche, vous nous dites qu'on ne sait pas faire, bah vous allez faire. Vous allez faire à notre place, donc chiche. On va faire une conférence environnementale, il n'avait pas encore appelé ça un Grenelle. On va faire une grande conférence, et c'est vous, association, qui allez décider du calendrier et des thèmes et de l'organisation de cette conférence. Et tout le monde sort de cette réunion finalement relativement content, donc nos messieurs se sont un peu calmés, et l'élection se passe, Nicolas Sarkozy est élu. La première décision, ça faisait à peine 2 semaines qu'il avait pris ses fonctions, il me dit, on fait le Grenelle de l'environnement tout de suite. On était face à un objet totalement inconnu. Jamais l'État n'avait confié aux associations le soin de prendre des décisions à sa place. Et là, il a fallu effectivement construire ce Grenelle de l'environnement autour d'un deal extrêmement simple. C'est que, comme je vous le disais, les associations sont invitées à être concepteurs de cette grande conférence. Les associations qui étaient autour de la table. Il n'y en avait que 8 à l'époque. Et il y avait un deuxième deal dont j'ai oublié de vous parler, qui a été d'emblée sur la table, qui est que par contre, ils ne voulaient pas discuter du nucléaire dans cette négociation. Tous les sujets pouvaient être abordés, les OGM, les nanoparticules, tout ce que vous voulez, mais pas le nucléaire. Ça a été le deal de départ qui avait été accepté à l'époque par les associations. Et donc nous voilà avec cet objet un peu inconnu, qu'il va falloir construire. Et là, il y a des difficultés extrêmement concrètes qui se posent. La première difficulté, et c'est la principale d'ailleurs, c'est un peu à l'image de cette réunion, c'est de ne pas aboutir à une impasse. C'est-à-dire que si vous avez d'un côté l'État et de l'autre les associations environnementales, vous pouvez à peu près être sûr qu'on aboutit à une impasse. Parce que quand l'un va dire blanc, l'autre va dire noir, il y avait une vraie situation de défiance en fait entre les deux parties. Et donc ma première réaction était de se dire, si on ne fait qu'un dialogue à deux, ça va être un dialogue de source avec une impasse totale. Et puis en plus, c'est pas très logique quand on parle d'environnement de ne pas ouvrir à d'autres acteurs dans notre société, parce que l'environnement, ça se résume pas à la biodiversité. L'environnement, c'est le bâtiment, c'est l'urbanisme, sujet central dans le domaine de l'environnement. Donc c'est l'urbanisme, le bâtiment, les transports, c'est la consommation, c'est la santé, c'est évidemment l'énergie, c'est l'eau, c'est les déchets. Donc ça touche tous les secteurs de la société. Et c'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas rester sur un dialogue à deux. La deuxième difficulté à laquelle on a été confronté, et c'est une difficulté qui est assez lourde, c'est la représentativité. Dans le domaine économique et social, vous avez des acteurs qui sont par la loi jugés représentatifs. C'est-à-dire que les syndicats, depuis la fameuse loi de 1955, vous avez un certain nombre de syndicats qui sont qualifiés de représentatifs et qui peuvent officiellement participer à des négociations. Pareil côté économique. Par contre, côté environnemental, ben on partait de rien. Vous avez plusieurs milliers d'associations qui sont reconnues par la loi. Vous n'en avez... On ne savait pas comment dire celle-ci va être plus légitime à participer que l'autre. On peut se dire qu'une association légitime, c'est une association qui a beaucoup d'adhérents, qui s'occupe de tous les sujets environnementaux et qui est présente sur toute la France. Il n'y en a qu'une seule en France qui représente ces caractéristiques, c'est FNE, France Nature Environnement. Ce qui fait qu'on aurait dû exclure WWF, Greenpeace, tous ces grands acteurs qui sont très reconnus dans le monde de l'environnement. Après, on aurait pu se dire qu'on exclut d'emblée les associations qui ne s'occupent que d'un sujet particulier. Et là, on aurait dû exclure la Ligue de protection des oiseaux, enfin, il y a Alain Bougrain-Dubourg, qui pourtant est un expert reconnu de la négociation. Alors on a fait un truc extrêmement bête, parce qu'en réalité, on ne savait pas trop comment faire autrement. On a juste pris les 8 associations qui étaient présentes dans le pacte et à la réunion initiale. On a pris celles-ci. C'était bête comme décision, mais on n'a pas trouvé d'autre manière de justifier notre décision de n'avoir qu'un nombre limité d'acteurs autour de la table. Parce que si on avait eu trop d'acteurs, trop de participants, on sait qu'on n'arrive pas à aboutir à des décisions concrètes. Donc c'était quand même relativement important de pouvoir limiter le nombre de participants. Les principes du Grenelle. Alors sur cette base, vous voyez, essayer d'avoir un nombre d'acteurs assez représentatif, pas trop nombreux, pas de dialogue de sourds. Alors comment est-ce qu'on a construit le Grenelle? On a les 6 principes du Grenelle, et je pense que c'est des principes que vous allez retrouver maintenant à peu près systématiquement dans les systèmes de décision qui concernent l'environnement. Le premier, et c'était le plus important à mes yeux, c'est que tous les sujets, alors à l'exception du nucléaire, mais ça c'est pour d'autres raisons, tous les sujets peuvent être abordés. Et ce sont les participants qui décident des sujets. C'est-à-dire que nous, État, ou nous, gouvernement, à l'époque, on ne leur a pas dit « vous allez parler forcément de tel ou tel sujet ». C'est eux qui ont choisi les sujets traités, les tables rondes, les groupes de travail. C'est eux qui ont choisi vraiment l'agenda de la discussion. Le principe numéro 2, celui-ci aussi, il est déterminant, c'est qu'on a créé en fait 5 collèges de discussion. Alors que je vous ai dit qu'on ne voulait pas un tête-à-tête entre associations environnementales et gouvernement, on a créé un collège association environnementale, un collège gouvernement-État-expert, un collège acteurs économiques, un collège acteurs sociaux, et les acteurs sociaux essentiellement les syndicats, et puis un collège élu avec les collectivités territoriales, donc les mairies, départements, régions, et également quelques parlementaires qui étaient associés à la discussion. Voilà, 5 collèges. Comme ça, on est sûr de représenter à peu près la pluralité des acteurs qui, en France, ont un vrai pouvoir d'action. Principe numéro 3, ces 5 collèges, ils sont paritaires. C'est-à-dire qu'il y a exactement le même nombre de participants dans tous les collèges. Donc au total, il y avait 40 participants. 8 fois 5, 40. Exactement le même nombre de participants pour qu'il n'y en ait pas un qui puisse l'emporter sur l'autre, pour qu'il n'y en ait pas un qui, quantitativement, puisse imposer sa décision à l'autre. Principe numéro 4, le temps de négociation a été très limité. Parce que les conférences, on en organise beaucoup, on en fait plein. Ça occupe bien, sauf que pour passer à la décision concrète, il faut toujours dire, bah, écoutez, vous avez tant de temps pour pouvoir décider. Et donc là, ça a été relativement court, puisque ça a duré de juin-juillet, jusqu'à octobre. Ce qui était assez court quand on voit la masse de sujets qui a été traité dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Principe numéro 5, celui-ci, il était très intéressant, c'est que l'État, l'administration, le gouvernement devaient rester silencieux, neutres. Au mieux, on apportait notre expertise, c'est-à-dire quand les acteurs nous demandaient des éléments sur le prix des énergies renouvelables, leur évolution, l'état de la biodiversité en France, on leur donnait les études et les expertises, mais en aucun cas, ça a été l'État qui a décidé de l'organisation des sujets à traiter ou qui a essayé d'imposer ses vues. Parce que, comme vous l'avez rappelé, j'ai eu une carrière assez riche dans le monde administratif, et je sais combien on impose nos vues, combien on a, y compris au sein de l'administration, chacun ses dadas. Et donc c'était important que l'État reste neutre pour que la décision ne soit pas orientée, pour que la décision soit bien celle de tous ceux, des entreprises, des syndicats, des associations qui étaient autour de la table, et pas celle de l'État. Donc ça, c'était le principe numéro 5. Et le principe numéro 6, ce qu'on avait acté, peut-être plus d'ailleurs avec Jean-Louis Borloo qu'avec Alain Juppé, parce qu'en fait on a commencé avec Alain Juppé, et ensuite c'est Jean-Louis Borloo qui a repris effectivement le flambeau sur le Grenelle de l'environnement, c'est que tous les points consensuels seraient repris dans la loi. Tous les points sur lesquels tous les acteurs de la négociation étaient d'accord seraient automatiquement repris dans une loi. Ce qui est quand même assez... ce qui pouvait mettre parfois d'ailleurs l'État en défaut, puisqu'il y a certains points qui nous dérangeaient un petit peu. Mais c'était un engagement qu'on avait pris. Et ça, aujourd'hui, vous allez, à mon avis, retrouver ces points dans différents systèmes de négociation qui concernent l'environnement et qui étaient vraiment l'essence du Grenelle. Les résultats, tout ce qui a été repris par la presse, les grandes conférences ensuite, c'est une chose. Mais le plus important, c'est que cette méthode de concertation, de vraie concertation, de co-construction, comme vous disiez tout à l'heure, et pas simplement de participation, puisque... Là, on construit la loi, c'est eux qui ont construit la loi. Cette méthode, elle a fonctionné. Quand on a commencé, on nous a dit deux choses. On nous a dit, de toute façon, les associations, elles vont claquer la porte. Et si ce n'est pas les associations qui claquent la porte, ce sera les agriculteurs, ce sera les énergéticiens. En tout cas, vous n'avez aucune chance de mener à bien cette négociation. Et en fait, ça, c'est le génie de Jean-Louis Borloo. Il a fait un truc extrêmement simple, qui peut marcher dans toutes les négociations d'ailleurs. Vous enfermez les gens dans une salle pendant une période relativement longue. C'est-à-dire que ce n'est pas une journée par mois. C'est pendant une période relativement longue. C'est plusieurs journées d'affilée. Vous les faites manger et vous les faites boire. Bon. Eh bien, ça marche. Quand les gens, ils sont dans la table, au début, ils s'interpellent, c'est assez virulent. Puis après, ils vont aller déjeuner ensemble, ils vont aller faire connaissance. Ils vont se rendre compte que finalement, l'autre n'est pas un horrible idéologue insupportable, que l'agriculteur n'est pas forcément quelqu'un qui veut absolument polluer. Et puis, ils vont se parler, et ça marche. Au fur et à mesure, ils se connaissent, les gens créent une vraie complicité, et ils se sentent complètement investis aussi d'une mission, c'est que ça réussisse. Et donc, personne n'a claqué la porte. Alors, il y a eu des tentations, il y a eu des moments plus ou moins difficiles. Mais Jean-Louis, il les a amenés dans son bureau, et il dit « Allez, viens ». Allez, viens, on va parler tous les deux, t'inquiète pas. Et poups, je pense que ça a beaucoup réussi grâce à lui quand même, il ne faut pas se mentir. Et puis le deuxième point, on nous a dit, vous allez accoucher d'une souris. Là, je n'aurais pas parié là-dessus. Quand ça a commencé, je pensais effectivement que le risque du compromis et du consensus, c'est qu'on aboutisse au plus petit dénominateur commun. Et ça a été assez surprenant de voir qu'en réalité, il y a eu des engagements qui allaient bien au-delà de ce qu'on imaginait, bien au-delà de ce qu'on aurait pu penser à l'époque, sur le développement, par exemple, des énergies renouvelables. À l'époque, on a complètement acté le fait qu'en 2020, on essaierait d'être à 20% d'énergie renouvelable en France. Aujourd'hui, ça vous paraît une banalité, parce que ça a été acté maintenant de longue date, mais à l'époque, c'était une rupture. on était encore quand même dans des conflits assez forts entre les énergies renouvelables et les autres formes d'énergie. Le développement du bio, quand on a dit qu'on allait essayer de tendre vers un objectif de 20% du bio, en tout cas en surface agricole, alors on en est très loin, mais à l'époque c'était une grande rupture, parce que pour tout le monde, le bio ça devait être vraiment forcément quelque chose d'un peu accessoire, et en tout cas qu'on ne pouvait pas le développer à une telle échelle. Donc il y a eu des engagements que j'ai trouvés extrêmement forts de la part des acteurs. On n'était pas complètement dans la démocratie directe, mais le législateur, c'est-à-dire le Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, derrière, face à un tel consensus, de toute façon, ils ne pouvaient pas revenir sur les objectifs qui avaient été actés par les principaux acteurs de la vie collective française. Que ce soit les syndicats, la CFDT par exemple, est probablement l'un des syndicats qui a été le plus engagé sur le Grenelle de l'environnement. C'est un syndicat qui mène une vraie réflexion sur ces sujets. Et donc, dès lors que vous avez ces principaux syndicats, vous avez la CGPME, vous avez le MEDEF qui s'engage autour de ces objectifs, la FNSEA a signé autour des objectifs, eh bien le législateur derrière, il ne peut pas dire non, je ne reprends pas ces objectifs. Les résultats de cette négociation, comme je vous le disais, ont été quand même très largement au-dessus de ce que moi j'avais imaginé. Juste pour vous en rappeler quelques-uns, parce que les médias se sont beaucoup focalisés sur ce que moi j'appellerais les mesures techniques. Il y en a certaines qui ont beaucoup fait parler à l'époque. L'interdiction des OGM pesticides, ça a été décidé dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Alors que, évidemment, l'État était contre, l'État ne voulait absolument pas interdire les OGM pesticides. L'Union européenne, d'ailleurs, nous a ensuite condamnés. Mais ça a été décidé dans le cadre du Grenelle. La réduction de la part du nucléaire dans notre consommation d'énergie, on l'a voté à l'époque. C'était dans le Grenelle de l'environnement. Avec cette idée que si on développe les énergies renouvelables, forcément, la part du nucléaire allait réduire. Il y avait un autre engagement qui était extrêmement fort, qui était de dire que dans le domaine de la recherche, dès lors qu'on investit 1 euro pour le nucléaire, on doit forcément investir l'équivalent pour les énergies nouvelles. Parce qu'à l'époque, on avait un très large sous-investissement de la recherche dans les énergies nouvelles par rapport au nucléaire. On a voté la norme basse consommation en 2012, c'est-à-dire que tous les bâtiments, on a adopté le principe que tous les bâtiments neufs devaient forcément être à ce qu'on appelle la RT 2012, BBC, ça vous parle ? Forcément, ici, ça doit vous parler. On a voté le principe aussi qu'on serait en énergie positive en 2020. Ça, c'est un autre sujet. Je sais que vous essuyez les plâtres, dans ce bâtiment. Et donc, ça, c'est un autre sujet. On a voté le principe de l'écotaxe poids lourd, le bonus-malus sur les véhicules neufs, la question du prix du carbone. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des décisions assez fortes et très lourdes de sens. Et tout ça, ça a été plus ou moins mis en place. Voilà, l'écotaxe, bon, ça s'est planté, mais pour des raisons qui sont uniquement politiques, en tout cas, tous ces sujets ont avancé dans le débat et dans la législation. Par contre, il y a un élément pour moi qui était sans doute le plus important, qui a été posé dans le discours du président de la République de l'époque, et c'était les principes. Des principes qui ont été posés dans le discours. J'étais aussi plume à l'époque. Et ces principes, par contre, qui étaient pour moi beaucoup plus importants, beaucoup plus fondateurs que ces différentes dispositions techniques, eux, ils n'ont pas connu le même succès. Il y avait un premier principe qu'on va appeler l'inversion de la charge de la preuve. Le principe était de dire, c'est pas au projet écologique de prouver leur utilité, c'est au projet non écologique de prouver qu'on ne peut pas faire autrement. Et cette inversion de la charge de la preuve, qu'on devrait voir à la limite dans tous les projets publics, je ne sais pas, vous avez des projets de carrière, des projets... Alors, on n'a plus de projets de centrales au charbon en France, mais on a encore des projets d'autoroutes, hein, et on n'en manque pas, des projets d'autoroutes. Bah, essayez de prouver en quoi on ne peut vraiment pas faire autrement, alors qu'un projet d'éolienne qui est un projet écologique, celui-ci, à l'inverse, il faudrait nous expliquer pourquoi on ne peut pas le faire. Ça, c'était l'inversion de la charge de la preuve. Ça n'a pas connu de traduction, ni dans la loi, ni dans l'administration concrète. Il y avait un deuxième principe qui avait été posé, c'est que tous les grands projets et décisions publiques devaient faire l'objet d'une évaluation carbone, c'est-à-dire l'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et d'évaluation en termes de biodiversité, sur l'impact sur la biodiversité. Ça a en partie était mis en place, mais il y avait dans ce principe une idée qui était que dès lors que l'impact était trop lourd, trop fort, forcément le projet devait être abandonné. Et ça aujourd'hui, vous connaissez quelques grands dossiers, Notre-Dame-des-Landes, vous constatez que le projet il n'est pas totalement appliqué, il n'est pas complètement rentré dans les esprits. On a dans les grands principes votés le droit à la transparence des informations environnementales. Typiquement, si vous avez... on a connu quelques déboires sur ce principe. À l'époque, on pensait par exemple aux cultures OGM. Vous savez, encore des parcelles de recherche sur des OGM, parce que demain, il peut y avoir des OGM intéressants pour l'avenir de la planète. Et donc, on a dit, on va être transparent sur où sont cultivées ces parcelles OGM. Le problème, c'est que du coup, elles ont toutes été détruites. Quatrième principe, qui a été posé aussi dans le cadre du discours final, du discours de conclusion, c'est que nous devions réfléchir en France à un nouveau modèle de développement et de croissance économique. Ça a connu une petite suite, c'est qu'on a confié à Stiglitz le soin, effectivement, de réfléchir à quel pourrait être le nouveau système d'évaluation de la croissance. En France, la croissance, vous le savez, elle est mesurée par l'évolution du PIB, du produit intérieur brut. Le PIB, c'est un indicateur de flux, c'est une somme de valeurs ajoutées. Ça veut dire que vous pouvez, c'est comme une entreprise qui ne se jugerait que sur son compte de résultats, vous pouvez très bien avoir une croissance forte, mais en dégradant votre patrimoine. Le PIB, par exemple, augmente avec la déforestation. Il augmente avec les accidents de la route, parce que ça fait travailler derrière les carrossiers. Ça fait Donc le PIB, ce n'est pas nécessairement un bon indicateur patrimonial. D'où l'idée qu'on avait à l'époque de dire, il faut soit à côté, soit à la place du PIB, essayer d'avoir un indicateur de patrimoine, de capital environnemental et social et économique, pour mesurer effectivement la qualité de la croissance. Donc il y a eu des travaux faits sur ce sujet, mais je ne peux que constater que ce n'est plus vraiment au cœur des débats politiques aujourd'hui. Et puis, dernier point dans la négociation, c'était de faire en sorte que, en fait, sur les grands projets, on allait généraliser ce système de discussion à 5. C'est-à-dire que typiquement, si on prend un projet comme, revenons sur Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas obsessionnel, mais au moins celui-ci, vous le connaissez, l'idée c'est de se dire qu'avant même d'arbitrer, de dire est-ce qu'on fait un aéroport ou pas, on met autour de la table les acteurs économiques, les acteurs environnementaux, les acteurs sociaux, les élus, les experts, pour discuter de l'opportunité du projet. Et s'ils se mettent d'accord, on le fait, s'ils ne se mettent pas d'accord, on ne le fait pas. Et en fait, l'échec du Grenelle est peut-être là, c'est que ces grands principes, eux, ils sont un peu tombés aux oubliettes. Autant les grandes décisions autour des OGM, de la taxe carbone, du nucléaire, du bio, tout ça, vous en entendez encore parler et ça continue à évoluer, autant ces grands principes, on n'en entend plus parler. Et donc vous m'avez posé, parce que j'ai reçu un certain nombre de questions, donc j'essaye d'y répondre, quels ont été les succès dans les traductions, dans la loi ou pas du Grenelle. On a voté deux grandes lois sur le Grenelle, une loi dite Grenelle 1, qui celle-ci était vraiment super, elle était parfaite. Elle a posé les grands objectifs, elle a dit grosso modo là où on voulait aller, elle n'a que 57 articles, ce qui est pour une loi relativement courte. Et elle a engagé vraiment tout le monde. D'ailleurs, elle a été votée à l'unanimité aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Par contre, après, on a voté une deuxième loi qu'on appelait Grenelle 2, qu'on a votée en 2010. Et cette loi-là, c'était vraiment une loi technique. Elle n'a pas été élaborée d'ailleurs par les acteurs du Grenelle de l'environnement. Elle a été élaborée par l'administration et ensuite soumise aux acteurs. Et cette loi-là, elle fait 257 articles de normes, d'interdictions, 257 articles qui font que là où on voulait des choses simples et des objectifs, on a eu énormément de contraintes, d'encadrement réglementaire et puis surtout de complexité. Et on a créé une usine à gaz. Et je dois vous dire qu'à l'époque, j'étais secrétaire d'État, donc ministre, et j'ai été particulièrement chargée de défendre cette loi au Parlement. Ça a duré, on a eu 50 heures de débat autour de cette loi. Et donc j'ai défendu bec et ongle tous les articles de la loi. Et quand même, quand je suis sortie en aparté, je dis, je ne suis pas très fière de ce que j'ai fait, parce qu'on a voté vraiment une usine à gaz, ce qui fait que quelque chose qui était plutôt engageant pour toute la société est devenu plutôt une source de contraintes. Après, il y a eu pas mal d'autres lois. Il y a eu la loi de transition énergétique. La loi dite de transition énergétique, donc, qui a été portée par Ségolène Royal, dans ses grands outils, elle reprend à peu près les mêmes grands outils que ceux qui existaient dans le cadre du Grenelle. Elle les a adaptés, parce qu'on a vu à l'usage qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Elle les a adaptés, mais elle reste dans la même philosophie. Après, ça a été une loi très clivante autour d'un sujet, qui a été le nucléaire. Puisque dans cette loi, il a été posé le principe qu'en 2025, la part du nucléaire serait de 50%. Et ça a été un débat, mais purement politique en réalité. Purement politique, parce que mécaniquement, si vous augmentez la part des énergies renouvelables, et ça tout le monde l'a voté, mécaniquement la part du nucléaire baisse. Le seul point de débat, c'était de savoir si c'était en 2025 ou plus tard. Alors, tous les experts, eux, pensent que 2025, c'est injouable, parce que le temps de transition est forcément beaucoup plus long. On est sur des systèmes de décision à 10 ou 20 ans. Mais par contre, tout le monde est d'accord pour dire que d'ici, allez, entre 2040 et 2060, le 50%, si on développe les énergies renouvelables, il est automatique. Donc c'était le seul point de débat, mais on était dans une période où finalement, ça a arrangé un peu toutes les parties, que ce soit la droite d'un côté ou la gauche de l'autre, de s'opposer autour d'un sujet. Et c'est assez classique en politique que des sujets à la base consensuels deviennent l'otage de calendriers politiques. Mais dans le fond, j'allais dire que c'était visuellement, c'était embêtant. Fondamentalement, c'était pas très grave, puisque on était quand même toujours dans la même logique et toujours dans le même esprit. Voilà, en quelques mots. Alors, on m'a demandé ce que je pensais des conférences environnementales, puisque les conférences environnementales, c'est ce qui a été aussi mis en place par la suite. Alors, elles reprennent exactement le même principe d'avoir les acteurs de la société autour de la table. Ils ont créé un collège supplémentaire, mais ça peu importe, c'est pas très important. Le problème des conférences environnementales aujourd'hui, je trouve, c'est que déjà, elles sont, c'est une journée, deux journées. Et donc ça ne suffit pas à faire ce que je disais tout à l'heure, à créer de la convivialité. Voilà. Puis on n'a pas Jean-Louis Borloo pour vous amener dans son bureau et vous dire, eh bien, on va en profiter tous les deux. Donc... non mais ça compte, vous rigolez, mais sérieusement, ça a été un génie pour essayer de mener à bien cette négociation. Et des gens qui voulaient plus parler, de les mettre autour de la table, ils ont dit, mais non, allez, vas-y, mais c'est pas ce qu'il a voulu dire, mais non, t'inquiète pas, on va pas. Voilà. Donc il a été absolument génial sur cette négociation. Mais c'est vrai que quand vous êtes deux jours sur une conférence, bah, vous pouvez pas créer cette forme de convivialité qui fait que vous allez dépasser les oppositions faciales et que vous allez être capable de prendre des décisions un peu plus engageantes. Et puis, le deuxième point, je trouve, c'est que aujourd'hui, il y aurait des vrais sujets à mettre sur la table. Il y a des nouveaux sujets qui apparaissent sur le débat environnemental et qu'on ne traite pas. Il y a un sujet qui va revenir, c'est ce qu'on appelle les nouvelles menaces sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé a clairement classé les risques environnementaux comme première cause de mortalité dans le monde. La première cause de mortalité dans le monde aujourd'hui, c'est la pollution de l'air. La deuxième, c'est la question de l'eau et notamment du manque d'assainissement. Après, vous avez toute une série, effectivement, de risques liés aux pesticides, produits chimiques et autres. Et puis demain, vous aurez la question centrale de l'impact des changements climatiques sur la production agricole. Donc ça, aujourd'hui, c'est un risque bien identifié, malheureusement assez peu travaillé sur comment, collectivement, on fait en sorte de réduire ces risques en France, en Europe et bien évidemment dans le monde. Et parmi ces nouveaux risques, il y en a certains que vous connaissez peut-être. Il y a la question des nanoparticules qui crée beaucoup de fantasmes. Les nanoparticules, c'est ce qu'on en retrouve un petit peu partout, hein, dans les crèmes cosmétiques, les crèmes solaires, dans les t-shirts de sport. C'est en fait, à l'état nanoparticulaire, évidemment, les qualités, les propriétés changent et ça crée des propriétés nouvelles. Donc les propriétés nouvelles, c'est souvent très utile, sauf que on ne connaît pas exactement les risques pour la santé, puisque à l'état nano, on passe les différentes barrières biologiques, on ne connaît pas exactement les risques pour la santé. Donc ça, c'est un premier point. Sachez qu'autant les États-Unis d'ailleurs investissent énormément dans le domaine de la recherche sur les nanos pour savoir quelles sont les conséquences, autant l'Europe collectivement investit très très peu. On avait essayé d'organiser un débat public, justement, via la CNDP. On avait essayé la Commission nationale du débat public, pardon, un débat public dans différentes régions de France autour de cette question pour savoir justement ce que la population voulait, comment elle comprenait le sujet, est-ce qu'elle considérait que c'était un risque à prendre ou pas. Ça a été un enfer. On a eu quelques associations ultra qui ont empêché même la tenue des débats et donc on a dû arrêter ces débats. Ça, c'était en 2010, mais il serait quand même utile d'essayer de reprendre ce débat. On a un deuxième sujet à traiter, c'est aujourd'hui qui décide dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire que ma position, c'est de considérer que dorénavant, il faut donner aux régions ou aux grandes collectivités, les grandes communes, la liberté de décider. Vraiment leur dire, écoutez, on est sur une impasse, on le voit très bien en région Île-de-France autour des questions de qualité de l'air. C'est un bazar innommable entre l'État qui est responsable, les villes, donc là par exemple la ville de Paris, la région, c'est un bazar innommable, avec des contraintes réglementaires, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Vous savez que pour mettre en place un péage urbain dans une ville, il faut une autorisation par la loi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une loi qui soit votée, qui dise la ville de Paris est autorisée à expérimenter un péage urbain. On a tellement peu confiance dans les élus locaux que on encadre tout ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Et ce serait utile demain, dans le domaine de l'environnement, parce qu'on a énormément de défis, on n'a pas toutes les réponses, de donner un vrai droit à l'expérimentation locale. Il y a la question de la fiscalité aussi qui se pose. On a un système fiscal qui est un système entièrement basé sur une économie industrielle pour l'essentiel, et qui est parfaitement inadapté aux enjeux actuels. Mais ça, c'est un débat aussi qui a été assez compliqué à mener à bien. Donc je trouve que les nouvelles conférences, elles pourraient s'enfermer dans une salle pour essayer de traiter de ces sujets, mais bon, on n'est pas dans ce timing, peut-être qu'une nouvelle majorité, un nouveau gouvernement demain reprendra ce débat pour vraiment arriver à une nouvelle co-construction, puisque c'était l'objet de l'intervention, co-construction de la décision dans le domaine de l'environnement, et j'ai été beaucoup trop longue, j'en suis désolée. Merci beaucoup.
Bonjour. J'aurais aimé que vous reveniez sur un point précis de votre exposé, qui est pour quelles raisons est-ce que le nucléaire, on a décidé de ne pas l'aborder lors du Grenelle de l'environnement ? D'autant plus que certaines lois, vous les avez citées, ont été promulguées concernant le nucléaire par la suite.
Il y avait une raison purement politique ? C'est que le candidat de l'époque, il était très pro-nucléaire. Voilà. C'est, autant le dire de manière assez franche. Et puis, il y avait une raison aussi, qui est qu'à chaque fois qu'on met ce débat sur la table, il y a deux débats qui sont extrêmement difficiles. À chaque fois qu'on met le débat sur la table du nucléaire, on aboutit vraiment à une impasse. Il y a des oppositions frontales. C'est un sujet qui relève en réalité d'ailleurs plus des questions de sûreté et de sécurité que de questions environnementales au sens propre. Et c'est un sujet tellement clivant, on n'a jamais réussi à avoir un débat dépassionné sur le nucléaire. Et c'est d'ailleurs assez fou, c'était dans la dernière loi de transition énergétique, je me faisais cette réflexion, on n'arrive pas à se dire qu'il n'y a aucune opposition entre nucléaire et renouvelable. Aucune. Voilà, c'est deux sujets qui sont des sujets différents. Et si on ne veut pas de nucléaire, c'est souvent plus pour des raisons de sûreté et de sécurité, parce que, il y a la question des déchets qui ne sont pas réglés, toujours pas, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle forme d'attentat autour de ces centrales. Et c'est ça le sujet central. C'est ça le sujet qui devrait être au cœur des débats, mais on n'a jamais réussi sur le nucléaire à en débattre calmement, posément, à ne pas être dans une opposition souvent de droite-gauche, mais pas que d'ailleurs, parce qu'il y a à gauche, il y a beaucoup de très pro-nucléaires aussi. C'est-à-dire quelque chose qui... Le nucléaire, ça va rassembler les républicains, une partie des socialistes et les communistes. C'est vraiment quelque chose qui... Ils se sont construits autour de cette idée et autour de ce qu'ils appelaient la grande ambition de l'époque. Ça, c'est un premier sujet. Il y a un deuxième sujet, pareil, qui est extrêmement clivant. C'est ce qu'on appelle les phytosanitaires, donc les pesticides. Ça, on a réussi à en débattre dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Mais j'ai juste vous raconter une petite anecdote, c'est-à-dire que dès qu'on parle de pesticides, la FNSEA, pour l'essentiel, considère que tout de suite on va l'accuser. On va l'accuser d'être le pollueur des sols, d'être un empoisonneur. Ce qui n'est pas le cas, parce que les premiers empoisonnés sont souvent les agriculteurs. Et donc c'est un sujet très difficile à manier. Et dans le discours final du Grenelle de l'environnement, du président de la République, à l'origine, il y avait une phrase qui disait « D'ici 10 ans, on va réduire de 50% l'usage des pesticides ». Alors, on avait mis pesticides pour simplifier, le nom en réalité phytosanitaire. L'usage des pesticides. Et à l'époque, le président de la FNSEA, qui était M. Le Métayer, paix à son âme, il est mort depuis, quand il a su qu'on avait écrit ça, il m'a hurlé dessus, il me connaissait bien, donc il m'a hurlé dessus, et j'ai dû aller récupérer la feuille du président qui était en train de prononcer son discours pour corriger et rajouter si possible, pour vous dire à quel point, quand même, à quel point le sujet était, il reste clivant. Et d'ailleurs, le résultat des courses, c'est que il y a eu des fermes expérimentales, il y a eu des engagements, on parle de tas de sujets, sauf qu'on n'a jamais autant utilisé de produits phytosanitaires que ces dernières années. Donc le résultat des courses, c'est que cette disposition-là, en tout cas, elle n'a malheureusement pas nécessairement été suivie de beaucoup d'effets. Alors, ne considérez pas que tout le Grenelle est dans le même état, mais il y a vraiment ce sujet des phytosanitaires qui est un sujet difficile. Le nucléaire, à l'évidence, de toute façon, sa part va réduire, c'est quasiment inévitable.
Bonjour, vous avez parlé de bienfaits de ce consensus que vous avez réussi à faire dans le Grenelle de l'environnement. Est-ce que vous pensez qu'en France, on peut envisager de faire ce genre de consensus dans des champs autres, en réunissant toujours des acteurs associatifs et des concernés ?
Je suis persuadée qu'on peut le faire dans pas d'autres domaines. L'environnement, c'était un champ vierge. C'était un champ dans lequel le processus de concertation nationale n'existait pas. On partait de zéro. Donc c'était plus facile que dans d'autres champs. Parce que le problème, par exemple, dans le domaine économique ou dans le domaine social, les procédures de concertation, elles ont été posées après-guerre avec un certain nombre d'acteurs, avec des rendez-vous réguliers, les fameuses conférences sociales, les syndicats, patronats et syndicats gèrent l'essentiel des dépenses sociales. Et donc là, c'est organisé. Donc, il y a bien des sujets sur lesquels il serait utile, effectivement, d'organiser une nouvelle forme de concertation en mettant autour de la table beaucoup plus d'acteurs qu'aujourd'hui, dont dans le domaine social, dont dans le domaine économique. Mais la difficulté qu'on a, c'est qu'il va falloir revenir sur des lois et des dispositions existantes. Il va falloir dire à certains acteurs syndicaux ou même patronaux, non, vous n'êtes plus seul autour de la table, on va rajouter d'autres acteurs. Ou alors non, vous n'êtes plus nécessairement très représentatif, il va falloir qu'on amène d'autres acteurs autour de la table. Et donc la difficulté, elle n'est pas tant sur la méthode, elle est surtout sur le problème qu'il faut remettre en question des systèmes existants, donc des formes de privilèges existants, en fait, hein, de places un peu réservées dans la négociation. Et on a plusieurs fois essayé de revenir, d'ailleurs, sur les critères de représentativité des acteurs patronaux ou des acteurs syndicaux. On n'a jamais beaucoup avancé sur ce sujet et personne ne s'y risque vraiment. Donc l'environnement, l'avantage, c'était vraiment un champ vierge, quoi. Un champ sur lequel il y avait tout à créer. On l'a un petit peu décliné ensuite sur des sujets proches de l'environnement comme le risque industriel. Sur le risque industriel, maintenant, les nouvelles organisations de concertation autour des sites industriels à risque sont à 5. Et ça fonctionne très bien, ça fonctionne plutôt bien. Parce que par exemple, quand vous avez des entreprises classées Céveso, donc des entreprises à risque, le problème auquel on est confronté, c'est que de plus en plus de maisons ont été construites à proximité. Et donc, après, il faut faire un arbitrage. Est-ce que l'entreprise doit déménager ? Dans ce cas-là, on perd des emplois. Est-ce que les habitants à proximité acceptent un niveau de risque ? Est-ce qu'on isole mieux, on protège mieux leur maison et dans ce cas-là, qui paye ? Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place ces systèmes A5, parce que ça permet une meilleure représentation des acteurs locaux et ça permet de prendre des décisions beaucoup plus consensuelles. Et ça marche plutôt bien.
Vous avez parlé d'un indicateur de patrimoine qu'il faudrait pour remplacer pour pallier au problème du PIB, ajouter un indicateur de patrimoine. Est-ce que ça a été juste pas mis en place ou pas discuté du tout du coup?
Si, ça a été discuté. On avait confié à, comme je vous le dis, à Stiglitz. Alors autour de lui, il y avait des gens qui ont beaucoup travaillé sur ces sujets, comme Ivray ou d'autres. Le soin d'essayer justement de faire des propositions sur de nouveaux indicateurs. Il y a quelques indicateurs maintenant qui sont discutés, alors qui sont censés être discutés au moment de la loi de finances. Donc on a des rapports sur l'état patrimonial de la France. Mais en tant que tel, on n'a pas du tout gagné la bataille, puisque quand on parle de croissance en France, on parle toujours d'évolution, de taux de croissance et d'évolution du PIB. Alors il y a des pays hein, qui ont beaucoup avancé, le Bhoutan. Ça, eux, ils ont créé un indicateur de bonheur, mais ils ont un autre rapport à l'environnement. Vous avez des pays d'Amérique du Sud aussi qui sont assez engagés sur ces sujets-là. Il y a l'Australie qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi. Mais on n'a pas gagné la bataille parce que je ne peux que constater que dans le débat, le seul indicateur qui compte aujourd'hui reste le taux de croissance. Or, on voit que voilà, on est dans des quasi-situations de stagflation permanente et personne ne se demande pourquoi.
Quand vous aviez parlé de la loi Grenelle 2, justement, qui était très contraignante, et qui... mais depuis, il y a eu d'autres lois, justement, qui venaient contrebalancer ça un peu, ou c'est resté dans le même état et...
Non, c'est resté dans le même état. C'est resté dans le même état, le code de... Enfin, le code de l'environnement, le code de l'urbanisme, tout ça. Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et à chaque fois que vous avez des lois de simplification, on ne fait que rendre les choses encore plus complexes. Et donc, c'est resté dans le même état. Comme je vous le disais, la loi de transition énergétique ou les différentes lois, elles ont aménagé certains dispositifs, mais on ne peut pas dire qu'elles n'ont pas substitué, en tout cas, des dispositifs plus ouverts. Et je citais l'exemple de la liberté d'expérimentation des collectivités. Je plaide, moi, vraiment pour qu'on donne des champs entiers aux collectivités, régions ou grandes intercommunalités, des champs entiers. On leur dise, par exemple, dans le domaine de l'urbanisme et du logement, qui est un des domaines les plus complexes et les plus encadrés, on leur dise, à vous de définir les normes. Prenez vos responsabilités. Prenez vraiment vos responsabilités. Mais quand vous êtes dans une région, vous imaginez pas. Dans la région, alors on fait un SDRIF, il faut que les PLUI soient conformes aux SDRIF, donc on émet des avis sur les PLUI. Ensuite, on a, alors dans d'autres régions, ils ont des SRADET, on a, c'est l'enfer. Le nombre de schémas que l'on a dans la région, en tout cas en région Île-de-France, dont du coup, il n'y a pas toujours d'ailleurs de clairs décideurs, de clairs responsables. Dans le domaine, je veux juste vous prendre un exemple, dans le domaine des déchets. Domaine important, les déchets, puisque c'est quand même aujourd'hui un des sujets centraux. On utilise plus de ressources naturelles que de ressources recyclées. Aujourd'hui, pour n'importe qui, c'est pour n'importe quelle entreprise, la ressource naturelle que vous allez prélever dans le sol, par exemple pour faire des constructions, ce que vous allez prélever dans des carrières, reviendra moins cher qu'une ressource recycler. Les déchets du Grand Paris, quand on va détruire des bâtiments, ça coûtera plus cher de les réutiliser que de prendre de la ressource naturelle. C'est quand même un truc complètement dingue. Et aujourd'hui, vous n'avez pas un acteur identifié, c'est pas l'État, c'est pas les régions, c'est pas les départements, c'est pas les communes, qui soient clairement responsables de cette question. Donc demain, là, on est en train de faire le Grand Paris, aujourd'hui. Ça va être au total 47 millions de tonnes de déchets, le Grand Paris. 47 millions de tonnes de déchets. Quasiment le double de la situation actuelle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on va tous les enfouir pour les enfouir? Alors essentiellement en Seine-et-Marne, ce qui fait que la Seine-et-Marne qui était plate, elle va devenir avec des belles collines. Ou est-ce qu'on va être capable de les réutiliser en se disant, avec tout ce qu'on a à construire justement dans le cadre du Grand Paris, on va réutiliser ça, on va réutiliser les terres excavées par les tunneliers pour faire des aménagements urbains? Eh bien, aujourd'hui, on est obligé de se battre parce que la société du Grand Paris me dit « Non, moi, je suis obligé d'aller vite. » L'État nous dit « Non, moi, je suis obligé d'aller vite. » Et moi, je dis « Mais moi, région qui suis un peu responsable des déchets, j'aimerais bien qu'on évite, justement, de redessiner la Seine-et-Marne et qu'on réutilise ces déchets. » Mais comme personne n'est responsable, ça n'avance pas. Et donc là, on a un vrai... On pourrait faire des lois tellement plus simples. Si on disait simplement à un responsable, toi, tu es responsable de tel sujet et ton objectif, c'est ça. Maintenant, tu te débrouilles pour atteindre cet objectif. Et ça marcherait tellement mieux.
Tout à l'heure, vous avez dit notamment qu'on ne fait pas assez confiance aux élus pour les décisions.
Parfois,
on a raison. OK. Quand il y a eu, par exemple, l'idée de donner plus de pouvoir aux régions, je crois, à un moment, est-ce que finalement, ça n'aurait été pas aussi en faveur de l'environnement? Et qu'est-ce qui a bloqué cette décision? Enfin, si jamais on a plus de décisions dans les régions, on a, entre guillemets, on allège et on répartit plus le travail, et c'est plus localement traité.
Il y a deux raisons qui expliquent ça. Il y a une raison qui est que les lois, l'essentiel des lois, les projets de loi, émanent du gouvernement. Donc c'est l'administration, c'est l'État et le gouvernement qui rédigent les lois. Il y a très peu de lois qui émanent des députés ou des sénateurs, pour une raison extrêmement simple, c'est que l'essentiel des ressources documentaires, de la compétence, de l'expertise, elle est dans l'État. On fait pas le poids par rapport à l'expertise de l'État. Donc l'essentiel des lois émane de l'État. Et donc l'État est pas, et l'administration, j'en viens, n'est pas prompte, n'est pas désireuse de se dessaisir d'une partie de ses pouvoirs. Ça, c'est la première raison. La deuxième, elle est purement politique, c'est que dans l'Assemblée nationale et au Sénat, vous avez beaucoup plus de représentants des communes que de représentants des régions. Les représentants des régions, comme moi, ils sont totalement minoritaires. Donc tout ce qui va contribuer à donner plus de poids et plus de pouvoir aux régions, en général, ça passe pas la barre du Sénat. Voilà. Le Sénat, il aime bien les communes, il aime bien les intercommunalités. Les régions, il aime pas trop. Pas plus que ça. Et donc c'est vrai que c'est très très paradoxal. Moi, je me souviens d'une fois où c'était pour justement en cas de rénovation de bâtiments. En cas de rénovation de bâtiments, souvent on se heurte aux avis des architectes des bâtiments de France. Et dans la loi Grenelle, on a essayé de dire que cet avis n'était plus un avis opposable, que ce n'était qu'un avis consultatif. Ce qui fait que quand il y avait intérêt à rénover un bâtiment, on pouvait le faire, même si l'architecte des bâtiments de France n'était pas toujours d'accord. Et de manière très étonnante, les élus, alors moi j'étais persuadée qu'ils allaient tous voter ça, et ben non, ils ont voté l'inverse, un peu pour s'abriter derrière l'avis des architectes de bâtiments de France, parce que c'était un pouvoir qu'ils ne voulaient pas prendre. Donc c'est vrai que moi j'y crois à fond, je suis très engagée dans cette voie. Je ne peux pas dire que ce soit la majorité des élus qui suivent effectivement et qui soient désireux. C'est quand même aussi assez pratique parfois de s'abriter un peu derrière l'État, s'abriter derrière la décision de l'administration ou derrière sa complexité. Je ne vais pas vous mentir, hein, je ne suis pas là pour vous mentir, puisque vous êtes en pleine formation, donc ce n'est pas un meeting politique, quoi. Enfin, non pas dans les meetings politiques, pardon, mais je dois juste vous dire la vérité. Et c'est vrai, c'est vrai que les élus aiment bien s'abriter parfois derrière les décisions de l'État.
Bonjour. J'aimerais juste rebondir sur la question qui vient d'être posée, justement. Est-ce que vous ne pensez pas que ce problème de blocage, enfin ce problème de compétence, appellerait pas, par exemple, une réforme au niveau des institutions et pas possiblement un changement vers, par exemple, le modèle qui existe en Espagne, qui est assez décentralisé et qui donne assez d'autonomie aux différentes régions, par exemple? Et juste une question qui rentre un peu en lien, en fait, que je voulais poser à base, mais c'est un peu en lien. La manière, vous avez vu qu'il y avait une certaine efficacité, entre guillemets, dans justement le Grenelle de l'environnement, beaucoup de dialogue et de l'échange. Cependant, est-ce que ça rentre pas en quelque sorte comme une solution en fait aux oppositions que vous avez décrites au début par rapport aux éoliennes, par rapport aux décisions qui peuvent heurter les personnes, les habitants, et qui leur semblent un peu arriver un peu d'ailleurs d'une sorte de force technocrate qui vient dire ça c'est bien, voilà.
Pour répondre sur la question de l'autonomie des régions et de leur donner plus d'autonomie, moi c'est effectivement ma position. Je pense que c'est la bonne voie aujourd'hui, en tout cas sur la partie environnementale, pour pouvoir développer de nouvelles initiatives, de nouvelles expérimentations. Et c'est vrai qu'on voit que les pays qui sont plus fédéralistes, qui sont justement où l'autonomie et la capacité de décision des régions est plus importante, ont beaucoup plus d'initiatives et beaucoup plus d'avance sur ces sujets-là. C'est généralement, ça va de pair, mais la tradition politique française et surtout notre longue histoire fait qu'on se méfie beaucoup des autonomies régionales. La France, l'État s'est construit contre l'autonomie des territoires, des régions, et donc aujourd'hui, ça ne ferait certainement pas consensus à cause de cette longue histoire et de cette longue méfiance à l'égard des régions. Mais j'ai bon espoir qu'on puisse avancer, puisqu'on voit bien qu'un État centralisé aujourd'hui ne permet pas de répondre à l'essentiel des défis auxquels nous sommes confrontés. Donc ça viendra, et j'en suis à peu près persuadée. Et ensuite, sur votre deuxième question, c'était sur l'efficacité du Grenelle et justement le fait que ça puisse répondre à certaines oppositions aux éoliennes. On a du mal, on a eu sur le Grenelle, oui, ce serait une bonne méthode de dire, avant même de construire, de concevoir un projet, systématiquement, on essaye d'organiser ce système à 5 avec des acteurs représentatifs. J'ai eu souvent ce débat avec des élus locaux. Et par exemple, j'ai eu ce débat autour de Paris sur certaines décisions en leur disant ce serait bien d'essayer de faire une forme de Grenelle sur des sujets qui sont extrêmement difficiles. La pollution de l'air en est un, jusqu'où on peut aller sur les restrictions de circulation. Et les élus, en fait, sont assez réticents à ce système parce qu'ils considèrent que ça les dessaisit d'une partie de leur pouvoir. Et que le système représentatif en France fait que vous êtes élu sur un projet, vous êtes élu sur un programme, et dès lors que vous avez été élu, vous le mettez en place. Et donc si vous avez été élu, et c'est vrai que les éoliennes sont souvent l'otage des campagnes électorales, souvent dans des petites collectivités, on se fait élire contre un projet éolien, rarement pour. Et donc elles sont souvent l'otage de ces projets, et donc l'élu après nous dit, non, moi j'ai été élu sur le projet de mettre fin aux éoliennes dans notre territoire, donc j'irai jusqu'au bout. Donc on a ce débat aussi, évidemment, avec Paris. C'est la même nature de débat, et on a eu ce débat, d'ailleurs, après le Grenelle de l'environnement, quand on nous a dit, au Parlement, moi j'ai entendu ça. On m'a dit, non mais attendez, vous avez acté là des consensus dans le cadre du Grenelle sur certains objectifs, mais on est en démocratie représentative. C'est pas possible que des acteurs qui ne sont pas issus de l'élection prennent le pouvoir et prennent des décisions à la place du législateur, à la place donc des députés et des sénateurs. Et je leur répondais, mais non, eux ils ont construit un projet, ils ont construit des objectifs, la décision finale de dire oui ou non, elle vous appartient. Après, prenez le risque, si vous voulez, de revenir sur un consensus, ça c'est votre choix, mais la décision finale, elle vous appartient. Et donc c'est la raison pour laquelle localement, il y a beaucoup d'élus qui considèrent que mettre en place ce dispositif grenellien, parce que maintenant c'est le terme, grenellien à l'échelle locale, ça remettrait en question leur pouvoir, ça remettrait en question leur légitimité.
D'accord, merci.
Bonjour. Je voulais savoir s'il y avait eu une hausse de la part du budget dédié à la recherche sur l'environnement.
Oui, il y a eu une hausse. Il y a eu une hausse qui a commencé déjà, donc... À l'époque, on avait créé ce qu'on appelait des fonds démonstrateurs. Et ensuite, dans le programme, ce qu'on appelle le programme des investissements d'avenir, qui fait que on est quasiment à plus d'un milliard, effectivement, sur ce type de recherche. Donc il y a une vraie hausse. Et on a, alors, en région Île-de-France, en plus, on a vraiment de la chance. Alors vous en êtes une émanation, la Cité des Cartes, c'est une émanation de ces grandes, de ces décisions. On a en Île-de-France une énorme expertise sur ces sujets-là. C'est-à-dire la France, elle est extrêmement bien placée sur l'expertise et la recherche et l'innovation dans le domaine de l'urbanisme, logement. On est très très bon dans ce domaine-là. On est très très bon sur les questions de qualité de l'air. Les meilleures entreprises et chercheurs qualité de l'air, ils sont en Île-de-France. On est très très bon sur l'eau. Traitement de l'eau, traitement des déchets, alors c'est plutôt le fait effectivement de grandes entreprises. On a été en termes de recherche et d'innovation très en avance dans le domaine des énergies. L'énergie solaire, c'est en France que ça a été quand même créé, c'était le COMES à l'époque, c'est en France que ça a été pensé. Mais en fait notre difficulté à nous, elle n'est pas tant sur la recherche, elle est ensuite sur le passage à l'acte. C'est-à-dire passer de la recherche, d'abord de l'état de recherche fondamentale, ensuite au démonstrateur, et après à l'industrialisation. Et c'est souvent là que ça bloque. C'est-à-dire qu'on a eu un nombre de plans, vous n'imaginez pas, on a eu le plan solaire, on a eu le plan véhicule électrique, c'était vieux ça, hein. Et on a eu un nombre de plans où on a commencé, on s'est engagé, puis tout d'un coup, une nouvelle majorité arrive et hop, elle change d'idée, elle dit non, non, le solaire, c'est pas bien, on va faire autre chose, on va faire du nucléaire, ça marche pas. Et donc, c'est pas tant la recherche qui fait défaut en France, on est très bon dans ce domaine-là, c'est plutôt le passage à l'acte après qui fait souvent défaut.
Merci.
Très bien, bah écoutez, merci beaucoup, Madame Joanneau, pour cette intervention à la fois pédagogique et stimulante, hein, c'est agréable.